Audiolib présente Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza, lu par Antoine Thomé. À Antonio, mon fils, ma continuité. À Luigi Bernabò, mon ami. L'appel à la police fut enregistré à 19h47, le 23 février. Une femme demandait d'une voix agitée l'envoi d'une patrouille dans une ferme isolée, à une quinzaine de kilomètres de la ville. Elle appelait depuis un portable. Au même moment, un violent orage s'abattait sur la région. Quand l'opérateur demanda la raison de l'urgence, la femme répondit qu'un homme s'était introduit dans sa propriété. Il se tenait dehors, sous la pluie, dans le noir. Son mari était sorti pour le convaincre de s'en aller, mais l'intrus ne voulait rien entendre. Il fixait la maison, immobile et muet. La femme ne put fournir de description physique, parce que de là où elle se trouvait, à cause de la pluie battante, elle ne le voyait que par intermittence, à la lumière des éclairs. Elle précisa qu'il était arrivé à bord d'un break vert et que ses deux fillettes étaient terrorisées. L'opérateur prit note et l'assura qu'il envoyait quelqu'un. Néanmoins, il informa la femme que, à cause des conditions météorologiques, ils étaient débordés d'appels concernant des accidents de la route et des inondations. Il lui faudrait donc patienter. Une voiture de patrouille fut disponible le lendemain matin à 5h, 9h plus tard. Pendant la nuit, un torrent s'était formé et submergeait la chaussée à plusieurs endroits, rendant l'accès à la ferme compliqué. La scène que découvrirent les deux policiers peu après l'aube était tranquille. La longère, en bois peint en blanc, était jouxtée par un silo pour la conservation des pommes. Un sycomore gigantesque projetait son ombre sur le jardin. Un fauteuil à bascule était installé sous la véranda et deux vélos roses, identiques, étaient rangés près de la cabane à outils. Sur la boîte aux lettres, les mots « Famille Anderson » avaient été peints en rouge vermillon. Rien qui laissât présager le moindre drame. Sauf peut-être le silence, interrompu uniquement par les aboiements d'un chien, un bâtard attaché à sa niche. Les agents hélèrent les propriétaires, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils estimèrent qu'il n'y avait personne et donc que leur présence n'était plus nécessaire. Toutefois, avant de repartir, l'un des deux, scrupuleux, monta les marches du perron et frappa à la porte. Il constata qu'elle était entrouverte, alors il regarda à l'intérieur et aperçut un grand désordre. Après avoir demandé l'autorisation par radio à la centrale, les policiers entrèrent pour contrôler les lieux. Ils trouvèrent les tables et les chaises renversées, les bibelots en morceaux et un tapis de tessons de verre sur le sol. Mais le pire les attendait à l'étage. Il y avait du sang partout. Il avait séché sur les oreillers et les draps des chambres à coucher. Il avait giclé sur les objets de la vie quotidienne, une pantoufle, une brosse, le visage des poupées dans la chambre des fillettes. Il y avait de longues traces sur le sol et des empreintes de mains sur les murs, signe de tentative de fuite désespérée. Le théâtre d'une tragédie. Pourtant, le plus troublant pour les agents fut ce qu'ils ne trouvèrent pas. Il manquait les corps. Dans cette maison, il ne restait des quatre membres de la famille Anderson, le père, la mère et des jumelles de 8 ans, que les photos encadrées posées sur les meubles ou accrochées au mur. Ces visages souriants avaient probablement assisté à leur propre massacre. Vers 8h du matin, la police arriva en force dans cette campagne reculée. Tandis que des brigades aidées de chiens perquisitionnaient les terrains attenants et toutes les cachettes naturelles à la recherche d'éventuelles dépouilles, l'équipe scientifique analysait le chaos à l'intérieur de la ferme pour tenter de reconstituer les faits.